أما بعد.
Nous adressons les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous permettre de nous réunir dans cette mosquée. On lui demande de faire de cette mosquée un lieu béni et de nous compter parmi ceux qui atteignent le mérite mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Il n'est pas un groupe de gens qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah » pour réciter le livre d'Allah et l'étudier entre eux, sans que ne descende sur eux la quiétude, et qu'ils ne soient englobés par la miséricorde, et que les anges ne les entourent, et qu'Allah ne fasse mention d'eux auprès de ceux qui sont auprès de lui. Après cela, je souhaiterais rappeler le bienfait dans lequel nous sommes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le bienfait de l'islam, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait guidés à cette religion de vérité, à propos de laquelle il a dit « Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam » La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et au sujet de laquelle il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Celui qui recherche une autre religion que l'islam, alors cela ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Louange donc à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir guidés vers cette noble religion. Et il ne nous appartenait pas de nous guider si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala qui nous avait guidés. À lui donc nous adressons les louanges, Azza wa Jal. Cette religion de l'islam, il convient de la connaître. Et pour connaître une chose, il faut commencer par connaître ses grandes lignes et les règles fondamentales qui régissent cette chose-là. C'est ainsi que nous pouvons dire que l'islam, il a des grandes bases fondamentales. Chacune de ces grandes bases-là englobe énormément de domaines et de chapitres de la religion et de la science religieuse, que nous retrouvons donc dans les textes du Coran et de la Sunna. Et il faut savoir que les ulama de l'islam, les savants, ont tiré ces règles-là des textes du Coran et de la Sunna, à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, as-salaf as-salih, et qu'ils ont recensé ces règles-là dans leurs livres, dans leurs ouvrages qu'ils ont écrits, notamment les ouvrages de fiqh, et plus particulièrement ceux des règles du fiqh. Et parmi les textes qui font mention de ces règles-là, il y a certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths qui sont très nombreux et certains qui sont plus généraux que d'autres. Et ces hadiths-là ont été recensés par les ulama et ils ont attiré l'attention vers leur importance et vers leur portée générale. Et parmi les hadiths qui font mention des règles qu'on a mentionnées, les grandes règles de la religion, les grandes règles du fiqh, certains ont été cités, ont fait objet donc d'unanimité, et d'autres ont parfois été cités par les ulama comme faisant partie des hadiths sur lesquels gravite la religion, et d'autres ne les ont pas cités. Mais parmi ces hadiths-là, il y en a que nous retrouvons donc toujours lorsque les ulama mentionnent les hadiths autour duquel ou sur lesquels repose la religion de l'islam. Parmi ceux qui ont cité ces hadiths, il y a l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, l'imam des gens de la Sunna, mort en 241 de l'Hégire. Et parmi ces hadiths, il en a cité trois. Le premier de ces hadiths, c'est le hadith rapporté par Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que nous allons aborder bi'idhnillah, les actes ne valent que par leurs intentions. Le second hadith, c'est le hadith de Aïcha radiallahu anha, quiconque ajoutera à notre religion ce qui n'en fait pas partie, alors cela sera rejeté. Et le troisième de ces hadiths, c'est le hadith de Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agré ainsi que ses parents, qui rapporte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous disait, le licite est clair et l'illicite est clair, et entre eux deux existent des choses douteuses que peu de gens connaissent. Et ce qu'on va essayer aujourd'hui, c'est d'aborder tout au parti de ces trois hadiths-là. De ces trois hadiths que nous venons de mentionner brièvement. Ibn Rajab al-Hammani, rahimahullahu ta'ala, expliquait la parole de l'imam Ahmed lorsqu'il a dit que la religion gravitait sur ces trois hadiths-là. Et il a dit, l'ensemble de la religion consiste à accomplir les commandements, délaisser les interdits et s'abstenir des ambiguïtés. Et tout cela est contenu dans le hadith de Nu'man ibn Bashir. Étant donné que dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, tu retrouves l'illicite qui t'est demandé d'accomplir, l'illicite qui t'est demandé de délaisser, et également les choses douteuses et équivoques et ambiguës desquelles tu dois t'abstenir. Et tout cela donc est contenu dans ce hadith. Et cela ne peut se réaliser qu'à travers deux choses. C'est là donc la suite de la parole d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala. Premièrement, que l'acte soit en apparence conforme à la sunna, comme cela est mentionné dans le hadith d'Aïcha, radiyallahu anha, quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Et deuxièmement, qu'intérieurement, on vise à travers l'acte la face d'Allah, comme cela est indiqué dans le hadith d'Omar, les actes ne valent que par les intentions. Tu comprends donc à travers ces propos d'Ibn Rajab, qui compte parmi les grands savants, les grands ulama de cette communauté, mort en 795 de l'Égypte, tu comprends donc le sens des propos de l'imam Ahmed, et tu comprends pourquoi il a considéré ces trois hadiths-là comme étant les trois hadiths sur lesquels gravite la religion. Et parmi les savants, il en est d'autres qui ont rajouté d'autres hadiths parmi ces hadiths-là. C'est le cas de Ishaq ibn Rahouya, mort en 238 de l'Égypte, donc trois ans avant l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, qui ajouta le hadith d'Ibn Mas'ud. La création de l'être humain s'opère dans le ventre de sa mère sous la forme d'une goutte pendant 40 jours. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aborder tout au parti des trois premiers hadiths, étant donné qu'on n'aura pas l'occasion de tous les faire. On va essayer d'aborder les trois premiers, et si on ne le peut pas, on se contentera que des deux premiers, à savoir le hadith de Omar et celui de Aïcha, radiyallahu anha. Le premier hadith donc qu'on a cité, il est rapporté par le commandeur des croyants, Abu Hafs, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agré, qui rapporte, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à dire, les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon ses intentions. Celui donc dont l'émigration est pour Allah et son messager, alors son émigration sera pour Allah et son messager, et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bas monde, ou pour épouser une femme, alors son émigration sera pour ce qu'il recherchait. Afin de commenter brièvement ce hadith, de chercher à le faire, on va aborder plusieurs points. Le premier de ces points, il concerne le fait de mentionner ceux qui ont rapporté ce hadith dans leur livre parmi les ulama. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui ne sont autres que les auteurs des deux célèbres recueils authentiques de hadith. Le deuxième point concernant l'explication de ce hadith concerne le fait de mentionner le compagnon qui l'a rapporté. Et nous avons pu voir que ce compagnon-là, c'était Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, dont la kunya, en quelque sorte le surnom, était Abu Hafs, et qui était appelé Amirul Mu'minin, le commandeur des croyants, ainsi que Al-Farouq, ainsi que Al-Farouq, et c'était là deux surnoms de Omar radiallahu anhu. Omar ibn Khattab radiallahu anhu, c'est le deuxième calife de l'islam après Abu Bakr As-Siddiq radiallahu anhu, et ses mérites sont nombreux. Et les cités nécessiteraient que cette assise-là et celle qui va suivre, et rajoutez-y d'autres assises, ne suffiraient pas. Donc on va se contenter de dire que ces mérites sont nombreux et qu'on ne peut pas les aborder durant ce genre d'assises-là. Il est mort, radiallahu anhu, en l'an 23 de l'Hégire, après avoir assuré le califat durant 10 années. Après avoir assuré le califat durant 10 années, radiallahu anhu. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, c'est le seul à avoir rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré son importance. Ce hadith, donc le hadith de l'intention, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon ses intentions jusqu'à la fin du hadith. C'est un hadith qui est très important, comme on va le voir. Pourtant, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, est le seul à l'avoir rapporté. Cependant, de nombreux textes appuient le sens de ce hadith. C'est le cas de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Fath, le verset 29, Muhammadun Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. La recherche de l'agrément d'Allah, ici, ça correspond à l'intention niya qui est mentionnée dans le hadith de Omar radiallahu anhu. Et de nombreux autres textes du Coran et de la Sunna qui font mention de l'intention, soit en mentionnant ce terme-là, niya, l'intention, soit en mentionnant d'autres termes qui sont équivalents, notamment ici donc la recherche de l'agrément et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sache que tu ne dépenseras rien en cherchant la face d'Allah sans que tu ne sois récompensé, ne serait-ce que pour la bouchée de nourriture que tu donnes à ton épouse. On retrouve donc ici le principe de l'intention qu'on avait déjà vu dans le hadith de Omar, radiallahu anhu. Le hadith de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il a été agréé et considéré authentique par l'ensemble de la communauté. Comment en serait-il autrement alors que Al-Bukhari et Muslim l'ont rapporté? Et c'est même le premier hadith contenu dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah. Il faut savoir que de nombreux ulama commençaient leur livre et continuent de le faire par le hadith de l'intention, afin d'attirer l'attention vers l'importance du fait de purifier l'intention et de rechercher par les actes la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Tu trouves donc dans de nombreux livres que les ulama commencent par la mention de cet éminent hadith. Le troisième point concernant l'explication de ce hadith consiste à aborder la signification des termes du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Innama, donc innama al-a'malu bin-niyyat, innama, ça laisse apparaître une notion de restriction. C'est pour ça qu'on a dit les actes ne valent que par leurs intentions. Et les actes qui sont voulus ici, ce sont les actes du cœur, également les actes avec la langue et également les actes avec les membres. Donc cette partie du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle englobe tout cela. Les actes du cœur, les actes de la langue et les actes faits avec les membres. Parmi les actes du cœur, tu trouves par exemple at-tawakkul, le fait de s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Également le fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir en lui, en revenant vers lui, en lui obéissant et en s'abstenant de lui désobéir. Également parmi les actes du cœur, tu trouves la crainte, la peur que le serviteur se doit d'avoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite parmi les actes du cœur. Parmi les actes de la langue, tu trouves ce que la langue est amenée à prononcer. Et cela donc est très nombreux. Et le Cheikh Al-Uthaymin de dire, rahimahullahu ta'ala, dans son commentaire des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, et je ne connais pas une chose ou un membre parmi les membres du corps qui soit plus actif que la langue, si ce n'est éventuellement l'œil et l'oreille. Il a dit ça étant donné que le fait de citer les actes de la langue serait interminable. Donc ils sont très nombreux. Et également dans les actes avec les membres. Et ce sont les actes que l'on fait avec les mains et avec les pieds. Et ainsi de suite. Donc ces actes-là sont également assez nombreux. Et ici donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par leurs intentions, ça englobe tout cela. Les actes ne valent que par leurs intentions. On a vu ce que c'était les actes. Qu'est-ce que c'est qui est voulu par l'intention, par les intentions qui motivent ces actes-là? Il faut savoir que l'intention, c'est la ferme résolution que tu as dans ton cœur d'accomplir un acte. La ferme résolution que tu as d'accomplir un acte. Et sa place, donc, c'est dans le cœur. Sa place, c'est dans le cœur. Et ce n'est pas quelque chose que tu viens prononcer avec la langue, comme on va le voir, Incha'Allahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon ses intentions. Une question se pose ici. On a deux phrases. La première, les actes ne valent que par leurs intentions. Et la seconde, et chacun sera rétribué selon ses intentions. Est-ce que la première phrase a le même sens que la seconde? Ou est-ce que le sens de chacune de ces deux phrases est différent de l'autre? Il faut savoir ici que la première phrase, elle concerne l'acte. Elle concerne l'acte en lui-même. Les actes ne valent que par leurs intentions. Alors que la seconde, elle concerne ce qui motive l'acte. Est-ce qu'il est voué à Allah ou pas? C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et chacun sera rétribué selon ses intentions. » Donc ce sont deux phrases à la portée différente. La première phrase concerne l'acte en lui-même et la seconde de ce qui motive l'acte. Est-ce qu'il est voué à Allah ou pas? Et l'exemple qui a été mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, il appuie cela, il appuie le fait de faire une distinction entre le sens de chacune de ces deux phrases, contrairement à ce que certains ulama, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit, lorsqu'ils ont dit donc, pour certains d'entre eux, que ces deux phrases avaient exactement le même sens, et qu'en vérité ce qui était voulu, c'était le fait d'insister sur l'importance de l'intention. L'intention, on a vu que c'était la ferme résolution que tu as dans le cœur d'accomplir un acte. En quoi consiste-t-elle? Il faut savoir qu'elle consiste, en termes de religion, elle consiste en deux choses. La première de ces deux choses-là, c'est le fait de distinguer les adorations des habitudes. Le fait que tu distingues les adorations des habitudes. Prenons un exemple. Une personne qui mange juste parce qu'elle a faim. Elle aura fait cet acte-là, donc à savoir celui de manger, par simple habitude et besoin. Une autre personne qui mangent afin d'accomplir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a dit وَكُلُوا وَشْرَبُوا et mangez et buvez. Ou une personne qui mange afin de prendre des forces pour accomplir une adoration parmi les adorations. Cette seconde personne-là, donc, elle aura mangé dans un but d'adoration. Donc ici, c'est l'intention qui aura distingué le premier acte du second. Le premier, il est fait par simple habitude et besoin, et le second, il est fait par adoration ou dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Également une personne, second exemple, une personne qui se doucherait uniquement pour se rafraîchir pendant l'été, par exemple. Elle a fait cette chose-là uniquement par besoin. Une seconde personne qui ferait la même chose, mais dans le but de se purifier de son état d'impureté majeure. Après avoir eu, par exemple, une pollution nocturne, ou après avoir eu un rapport sexuel, par exemple, elle en vient à faire les grandes ablutions afin de se purifier. Cette seconde personne-là, elle fait ça donc dans un but d'adoration. Alors que la première, c'était juste par besoin et habitude. La première donc, elle a fait cela par habitude, et la seconde, dans un but d'adoration. Et c'est l'intention ici qui distingue ces deux choses-là. C'est pour cela qu'on a dit que l'intention consiste, dans un premier temps, à distinguer les adorations des habitudes. Et les gens de science, les ulama, ils disaient, retenez bien cette phrase-là, très importante. Les adorations des gens insouciants ne sont en vérité que des habitudes. Alors que les habitudes des gens éveillés deviennent des adorations. C'est quoi le sens de cette parole? Ils veulent dire par cela que les gens qui sont insouciants, même lorsqu'ils accomplissent des adorations, c'est devenu tellement routinier que ces adorations, dans leur situation, ne sont devenues que des habitudes. A l'inverse, tu trouves que ceux qui sont éveillés, qui sans cesse évoquent Allah subhanahu wa ta'ala, se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, renouvellent leurs intentions de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de rechercher son agrément, sa satisfaction, sa récompense, de s'écarter de son châtiment, de sa colère. Tu trouves que ces gens-là, même ce qu'ils font, qui à la base n'est que routinier ou habituel, eh bien même cela, ils en font des actes d'adoration, étant donné qu'ils les accomplissent afin de se renforcer, par exemple, dans le but d'accomplir ou de concrétiser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention consiste également, et c'est là un second point, à distinguer les adorations entre elles. Distinguer les adorations les unes des autres. Prends comme exemple une personne qui prie une prière surérogatoire et une personne qui prie une prière obligatoire. L'intention de la première ne sera pas la même que celle de la seconde. La première, donc, elle va avoir l'intention d'accomplir un acte surérogatoire et l'autre, un acte obligatoire. Et il ne convient pas que tu viennes faire un acte surérogatoire en ayant l'intention de faire quelque chose d'obligatoire, car à ce moment-là, ton intention ne serait pas conforme. De même qu'il ne convient pas d'accomplir un acte obligatoire avec l'intention de faire quelque chose de surérogatoire. Donc l'intention consiste également à distinguer les adorations les unes des autres, distinguer les adorations entre elles. Prononcer l'intention. Qu'en est-il du fait de prononcer l'intention avec sa bouche? On a dit précédemment que l'intention, sa place, c'est dans le cœur. Qu'en est-il du fait de prononcer l'intention? Les ulama ont dit que c'est là une innovation une invention dans la religion qui n'a pas de base. Étant donné qu'aucun texte n'appuie le fait ou ne mentionne le fait de prononcer avec sa bouche, avec sa langue, l'intention. Tu te contentes donc d'avoir l'intention de faire la chose dans ton cœur. Et on a dit que l'intention, c'était d'avoir la ferme résolution d'accomplir un acte dans, donc le fait d'avoir cette chose-là, dans son cœur. Il y a une anecdote qui est mentionnée par le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui dit qu'un jour, une personne parmi le commun des musulmans, ce n'était pas forcément un étudiant en science, mais c'était quelqu'un parmi le commun des musulmans, parmi les gens du Najd, donc une région d'Arabie, il s'était rendu à la grande mosquée de la Mecque et il voulait prier la prière de Dhuhr. Et à côté de lui, il y avait une personne qui considérait qu'il lui incombait de prononcer l'intention avec sa bouche. Lorsque la prière était sur le point de commencer, cette personne, qu'est-ce qu'elle a commencé à dire? Elle a commencé à dire donc de vive voix, « Oh Allah, j'ai l'intention de prier la prière de Dhuhr, 4 unités de prière pour Allah l'exalter derrière l'imam de la mosquée sacrée de la Mecque. » Et lorsqu'il s'apprêtait à proclamer la grandeur d'Allah et à dire « Allahu Akbar » afin de rentrer dans la prière, la personne qui était à côté de lui a dit « Attends un peu. » Il a dit « Tu as oublié de mentionner la date, le jour, le mois et l'année. » Il a montré, donc il a pris à la dérision pour lui montrer que son acte, il n'avait aucun sens. La personne, elle a été surprise par cette démarche-là. Et d'après les termes du shir, donc, elle a compris que cette chose-là, donc, n'avait pas de source dans la religion. Donc il n'était pas demandé de faire cela, et le fait de faire cela est une exagération, et ne fait en rien partie des enseignements prophétiques. Il est possible que quelqu'un dise, pourtant, malgré ce que tu avances, la personne qui se rend au pèlerinage pour accomplir le hajj, pour accomplir la umrah, elle dit labbayk allahumma bi umrah ou labbayk allahumma hajjan, et ce lorsqu'elle se sacralise, et elle ne rentre en état de sacralisation qu'en disant ces choses-là. Est-ce que cette chose-là n'est-elle pas, au final, on ne revient pas à prononcer l'intention avec sa bouche? La réponse est non. La réponse, c'est non. Étant donné qu'en vérité, cette formule-là de sacralisation, c'est juste un moyen qui est légiféré, que tu retrouves dans les textes de la sunna, afin de rentrer en état de sacralisation. Mais ton intention, elle était bien avant ça dans ton cœur. Également, à ce moment-là, elle est toujours dans ton cœur. Si ce n'est qu'il t'est demandé, afin de rentrer en état de sacralisation, de faire cette chose-là, ça fait partie intégrante des rites. Et ça n'est en rien considéré comme le fait de prononcer l'intention avec sa bouche. Une autre personne pourrait dire, comment se fait-il que tu dises que c'est une innovation, alors qu'un tel et un tel l'ont mentionné dans tel ou tel livre? La réponse à cela, comme l'a dit le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, c'est de dire qu'en vérité, c'est tout simple, on se contente de ce que nous trouvons dans les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et dans les paroles de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de ce moment-là, lorsque la vérité est apparue, il ne convient pas de suivre la parole d'autre que celle d'Allah ou de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon ses intentions. Et comme on l'a vu tout à l'heure, tu peux trouver deux personnes qui font le même acte, mais pour autant, ils ne sont pas rétribués de la même manière. Et on a vu que la différence dans cela, c'était l'intention. Et tu peux trouver également que deux personnes font le même acte, un acte en apparence qui est un acte de bien, et au final, une de ces deux personnes est récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala et rétribuée en bien, alors que la seconde sera châtiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Elles ont fait le même acte. Elles font la même prière, le même geste. La prière dure autant. L'une de ces deux personnes est rétribuée en bien par Allah subhanahu wa ta'ala et obtient sa récompense, alors que la deuxième n'obtient que son courroux et son châtiment, qu'Allah nous en préserve. Et la différence, c'est l'intention. La première personne, elle a nourri l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'obtenir sa satisfaction, son agrément, sa récompense, alors que la deuxième personne, elle n'a fait cela que par ostentation. Par exemple, ou elle ne recherchait par cela qu'un bien parmi les biens de ce bas monde. L'acte est le même en apparence, mais l'intention fait que la première personne mérite la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la seconde encourt son châtiment et qu'Allah nous en préserve. Tu comprends donc ici la gravité du fait de rechercher la face d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed, ainsi que l'imam Abu Daoud, de même que Ibn Majah, ont rapporté, c'est un hadith qui a été considéré authentique par l'imam Al-Albani dans son livre Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Ils ont rapporté donc le hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agré, qui rapportait du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il disait: celui qui recherche une science alors que cela est parmi ce par quoi la face d'Allah est recherchée, et qui ne le fait que pour un but mondain, ne sentira pas l'odeur du paradis. Tu peux trouver donc deux personnes qui étudient en même temps, auprès du même enseignant, le même livre. L'un, il obtient l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que son but c'est uniquement de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, d'ôter l'ignorance qu'il y a en lui, de contribuer à ôter l'ignorance qu'il y a en son prochain, de contribuer à défendre la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de contribuer à faire se répandre la sunnah, à secourir la religion, et par cela il mérite l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que la seconde personne ne fait cela que pour un bien parmi les biens de ce bas monde, pour obtenir une place dans le cœur des gens, pour obtenir un travail, pour obtenir une fonction, pour qu'il soit dit un tel a étudié. Et c'est ainsi qu'elle encourt le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'acte en apparence est le même, mais ce qui fait la grande différence entre les deux, c'est l'intention qu'il y a dans le cœur de chacune de ces deux personnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des gens sincères. Dans la suite de ce hadith, le noble messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui donc dont l'émigration est pour Allah et son messager, alors son émigration sera pour Allah et son messager. Ici donc il a cité un exemple, car comme on dit, bil mithal yattadihu al maqal, c'est avec l'exemple que s'éclaircit, que s'éclaircissent les paroles. Parfois tu tiens des propos et il est bon de donner des exemples concrets afin de faire comprendre les paroles que tu as avancées. Donc ici il a dit: celui donc dont l'émigration est pour Allah et son messager, alors son émigration sera pour Allah et son messager. L'émigration dans la langue arabe et dans les textes religieux, il faut savoir qu'elle revient au fait de se déplacer. L'émigration, donc, c'est le fait de se déplacer. Tu émigres d'un endroit à un autre, tu te déplaces d'un endroit à un autre. Dans les textes religieux, l'émigration, el-hijra, c'est le fait de se déplacer d'une terre de mécréance vers une terre d'islam. Et certains ulama ont rajouté, ou d'une terre de mécréance vers une terre où la mécréance est moindre. Afin de faire rentrer donc dans le principe de l'émigration, l'émigration de certains des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers l'Abyssinie, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'émigrent vers la ville de Médine. Ici donc il a dit, celui donc dont l'émigration est pour Allah et son messager, alors son émigration sera pour Allah et son messager. Que signifie le fait d'émigrer vers Allah et son messager? Émigrer vers Allah et son messager, ça consiste en plusieurs choses. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la conquête de la Mecque en l'an 8 de l'Hégire, ça consistait à ce que la personne, elle émigre de la Mecque jusqu'à Médine. Et ce, en cherchant donc l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également le fait de rejoindre et de secourir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a ici une question qui est importante à poser, et peut-être qu'on va terminer par ça parce que je crois que c'est l'heure de l'adhan. Il reste combien ?
18 minutes.
Alors on continue tout court. Naam. Il y a une question qui se pose. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-on continuer à émigrer vers lui ? Ici donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui donc dont l'émigration est pour Allah et son messager, alors son émigration sera pour Allah et son messager. Est-ce qu'après sa mort, il est possible d'émigrer vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? La réponse, c'est qu'il convient de détailler la réponse à cette question-là. Si tu vises par cela la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors on te dira non, il n'est pas légiféré d'émigrer vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour sa personne, après sa mort. Mais si tu vises sa sunna, et que tu vises le fait de défendre sa sunna, de contribuer à ce qu'elle se répande, et qu'elle se propage, et qu'elle soit diffusée au sein de la communauté et de l'humanité, alors là, effectivement, on te dira, c'est là une émigration qui est permise et qui est demandée. Donc, on récapitule, émigrer vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, vers sa personne, non, mais vers sa sunna, nous répondons que oui, et que c'est quelque chose à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont incité. Et c'est le même principe que ce que nous pouvons trouver dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nisa, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager si vous croyez à Allah et au jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur aboutissement. Tu renvoies les choses vers Allah et son messager après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en revenant au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, et en revenant vers la sunnah de son messager Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir abordé ce troisième point qui concerne l'explication des sens des termes de ce hadith, abordons maintenant le quatrième point qui concerne les enseignements à tirer de ce hadith. Le premier enseignement que l'on peut tirer, c'est la place qu'occupe ce hadith dans la religion. étant donné qu'il a été considéré par les ulama comme étant la balance des œuvres du cœur, qui te permet donc de savoir quel acte est bon et valide et quel acte ne l'est pas, et de savoir que c'est de l'intention que dépend tout cela. Alors que le hadith que l'on va voir inshallah plus tard, le hadith de Aïcha, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque ajoute à notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté, constitue la balance des paroles et des actes des membres, c'est-à-dire des choses apparentes. Donc le hadith de Aïcha radiallahu anha, ou le hadith plutôt de Omar ibn Khattab radiallahu anha, que nous sommes en train d'expliquer, il concerne les actes qui sont cachés. Les actes qui sont cachés. Même si on a vu que sa portée est plus vaste et qu'il peut également, et qu'il concerne en vérité tous les actes. Mais ça concerne la face cachée de chaque acte, celle qui n'est pas apparente, à savoir l'intention. Deuxième enseignement à tirer de ce hadith, l'obligation de distinguer les adorations les unes des autres. Comme nous l'avons vu précédemment, tu n'accomplis pas telle adoration qui est obligatoire avec la même intention que lorsque tu accomplis telle adoration qui est surérogatoire. Et ici, il y a une question qu'a abordé le Cheikh Ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala dans son commentaire des 40 hadiths recensés par l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, que j'estime qu'il est important de mentionner. Wallahu al-muwaffiq. Qu'en est-il d'une personne qui prierait une des prières obligatoires en ayant l'intention d'effectuer l'obligation du moment sans spécifier dans son cœur quelle prière il effectue? Par exemple, une personne, elle se présente pour la prière de l'Asr. Elle arrive à l'heure de la prière, elle rentre avec le groupe, ils entament la prière, et dans son cœur, elle n'a pas forcément spécifié que cette prière-là qu'elle va accomplir, c'est la prière de l'Asr. Et donc elle s'est contentée de venir à l'heure. Elle a fait ses ablutions, elle vient à l'heure de la prière, et elle accomplit sa prière en congrégation avec le reste des musulmans. Est-ce que cela suffit? Est-ce que sa prière est valide? Ou est-ce qu'il lui était obligatoire de spécifier dans son intention qu'elle prie la prière de l'Asr? Le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il fait prévaloir l'avis que le fait d'avoir l'intention de faire l'adoration du moment suffit. Et que la personne, le fait qu'elle soit venue, qu'elle ait fait la démarche, elle se soit préparée pour venir, elle soit venue à l'heure de la prière, tout cela, ça suffit en vérité pour que sa prière soit valide. Et le fait d'opter pour l'autre avis, à savoir qu'il lui est obligatoire, ici, de spécifier dans son cœur l'intention d'accomplir telle prière, auquel cas sa prière ne serait pas valide, ce serait quelque chose qui serait trop contraignant pour la communauté et qui mettrait beaucoup de membres de la communauté dans la gêne, y compris certains imams qui dirigent la prière. Tu peux arriver de temps en temps, pour une raison ou une autre, tu te présentes pour diriger la prière. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Pour diriger la prière. Et au final, ton intention, c'est uniquement de prier la prière du moment. Et que tu es venu donc à l'heure, parce que tu sais que c'est l'heure de la prière, sans pour autant spécifier dans ton cœur que c'était telle ou telle prière que tu vas accomplir parmi les prières obligatoires. Donc il suffit, c'est une facilité, il suffit ici d'avoir l'intention de prier la prière du moment. Et en vérité, tous les indices qu'il y a autour montrent qu'en vérité la personne, elle avait l'intention de faire ce qui lui incombait de faire, et cela est donc valide le concernant. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, qu'il ne faut pas chercher à renouveler son intention et à faire en sorte que tu te présentes à chaque adoration en ayant à l'esprit, dans le cœur, que tu vas accomplir précisément telle adoration, et cela, bien sûr, est plus à même de voir cette adoration donc accomplie de la meilleure des manières. Le fait que la personne ressente Et le profond sentiment qu'elle accomplit donc cette adoration à tel moment et telle adoration précisément. Parmi les enseignements et les points à tirer de ce hadith, l'incitation à la sincérité vis-à-vis d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ce qui constitue d'ailleurs la sagesse pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes. Il a dit subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est donc là la sagesse qui réside dans la création des djinns et des hommes, à savoir la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu trouves l'incitation à cela dans ce noble hadith, contrairement à certaines personnes qui, de manière étrange, prétendent que ce hadith ne fait en rien référence à la sincérité. Et comme on dit, il est des paroles qui sont déjà par terre. Tu n'as pas besoin de chercher à les faire tomber. Si ce hadith, il ne mentionne pas et il n'incite pas à la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors je ne sais pas quel hadith indique cela. Quatrième point, quatrième enseignement que l'on peut tirer de ce hadith, la noble méthodologie prophétique d'un enseignement qui réside dans le fait qu'il est cerné le sujet, il est habilement décomposé sans se contenter d'énumérer des notions, sans être attentif à leur bonne assimilation. Lorsque tu enseignes, il convient donc de présenter du mieux possible ce que tu es en train d'enseigner, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, lorsqu'il a cerné le sujet. Et ce lorsqu'il a dit, les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera rétribué selon ses intentions. Et également dans le fait de donner des exemples et ne s'est pas contenté d'énumérer des informations. Mais il a bien cerné le sujet qu'il a traité et il l'a bien décomposé de manière organisée, puis il a cité des exemples afin de les illustrer pour qu'ils soient bien compris et assimilés. Cinquième point parmi les enseignements tirés de ce hadith, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et dit vers Allah et son messager en utilisant la particule et vers Allah et son messager et la conjonction de coordination et et en arabe wa et non pas la particule puis. Il n'a pas utilisé la particule puis thumma. Il a bien dit et. Il n'a pas dit « puis ». Et ce, alors qu'il lui est arrivé de corriger une personne qui avait dit, au sujet d'une affaire qui s'était passée, il a dit « c'est comme Allah et toi l'avez voulu ». La personne donc elle a dit ça, « c'est comme Allah et toi l'avez voulu ». Donc en parlant, en visant par là le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donc utilisé la conjonction de coordination est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il s'est mis en colère. Et il a dit, m'as-tu considéré égal à Allah? C'est plutôt comme Allah seul l'a voulu. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad, de même que par l'imam Ahmed, l'imam Ibn Majah, et il a été considéré authentique par l'imam al-Albani dans son livre Silsilat al-Ahadith, As-Sahihah. Et c'est un hadith rapporté par le noble compagnon Ibn Abbas, qu'Allah l'agré, ainsi que son père. Donc dans ce second hadith-là, tu trouves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère du fait que la personne elle a dit « Ma sha'allahu wa shi'ta » C'est comme Allah et toi l'avaient voulu. Donc il a utilisé cette conjonction de coordination. Quelle est la différence entre ces deux utilisations-là? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la conjonction de coordination et dans un contexte et pourquoi il s'est mis en colère contre la personne qu'il a utilisé également lorsqu'elle a dit c'est comme Allah et toi l'avaient voulu. La différence dans cela, c'est que le contexte n'est pas le même. Si tu parles de législation, le fait de légiférer, alors il n'y a pas de mal à utiliser cette conjonction de coordination. Et c'est le cas donc, ici, lorsqu'il a dit vers Allah et son messager. C'est également le cas, par exemple, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, man yuti'ir rasoul, ou plutôt c'est, ça va dans le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, man yuti'ir rasoul, faqad ata'a Allah, celui qui ou quiconque obéit au messager, obéit certainement à Allah. Donc ici c'est en matière de législation. Le fait d'obéir au messager, ça revient à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a donc pas de mal à utiliser la conjonction de coordination. Et par contre, dans le hadith que nous avons cité, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère et a répondu à la personne qui a dit « c'est comme Allah et toi l'avais voulu » en lui disant « m'as-tu considéré égal à Allah ?» C'est plutôt comme Allah seul l'a voulu. Ici, ça concerne le domaine de la création et de la direction de la création, de cette dernière. Donc ce n'est pas lié à la législation. Et dans ce domaine-là, il ne t'est pas permis d'utiliser cette conjonction de coordination-là. Il ne t'est pas permis d'utiliser cette particule-là en arabe, à savoir le « wa ». Et tu ne dois donc pas dire « ma sha Allahu wa shi'ta », mais tu dois plutôt dire « ma sha Allahu wahda ». Tu ne dis pas « c'est comme Allah et toi l'avais voulu », mais tu dis « c'est comme Allah seul l'a voulu ». Une autre possibilité, c'est de dire « ma sha Allahu thumma shi'ta ». C'est comme Allah, puis toi l'avais voulu. En faisant bien la distinction et en utilisant donc ici la particule « thumma », à savoir donc « puis », pour ne pas mettre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au même niveau que son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est clair? C'est clair? Oui. Également, parmi les points et les enseignements que nous pouvons tirer de cet éminent hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le mérite qui réside dans le fait d'émigrer. Et nous avons brièvement expliqué en quoi consiste l'émigration. Émigrer donc, ça consiste à se déplacer d'une terre de mécréance vers une terre d'islam. Et ce hadith donc, il montre les mérites qui résident dans cela. Quant au statut religieux de l'émigration et le hijra, il varie selon la situation de la personne. L'émigration, elle est au minimum recommandée. Recommandée. Si la personne, elle a la possibilité d'accomplir ouvertement sa religion, et elle devient obligatoire, si la personne n'a pas la possibilité de pratiquer ouvertement sa religion et de laisser apparaître ouvertement sa religion. Et ici, il conviendrait de détailler ce sujet-là, et je vous renvoie au propos du Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans une recherche qu'il a faite, et que vous trouvez dans son commentaire des trois principes fondamentaux, que vous trouvez en arabe, qui est très répandu, et dont vous trouvez la traduction en langue française. Je vous incite à revenir à ce point-là, afin de connaître les détails qui y sont liés, et de connaître également l'importance de ce sujet, surtout à notre époque, surtout dans le pays dans lequel nous vivons. C'est un sujet très important qu'il convient d'aborder, d'étudier en détail, et il convient d'accorder toute son importance à ce sujet-là, afin de pouvoir cerner son importance et de savoir ce qu'il nous incombe de faire en matière d'émigration. Et afin de savoir, notamment nous autres musulmans qui vivons ici en France, qu'il nous incombe obligatoirement de quitter ces terres de mécréance afin de pouvoir ouvertement accomplir, pratiquer notre religion, et j'espère que nous aurons l'occasion plus tard, incha'Allah ta'ala, d'aborder le sujet de ce qu'on appelle idhar ad-din, le fait de laisser apparaître sa pratique de l'islam. À quoi ça consiste? Certaines personnes pensent que le fait que tu puisses laisser pousser ta barbe, le fait que tu puisses porter ton qamis, le fait que tu puisses venir faire ta prière à la mosquée, pensent que cela suffit. Et ils en oublient beaucoup d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire et qui leur sont strictement interdits de faire. Ces interdits-là qui ne cessent d'augmenter de jour en jour. Et à chaque fois qu'ils augmentent, ils rendent encore plus obligatoire le fait de quitter cette ère-là et d'émigrer afin de pouvoir pratiquer ouvertement sa religion. D'autres personnes se laissent avoir par la situation de certains pays musulmans en prétendant que, au final, la situation en France n'est pas plus mal que dans certains pays musulmans. Et tout cela, bien sûr, ne sont que des arguments fallacieux qui n'ont pour but et ne tendent que vers le fait de se justifier, étant donné que certaines personnes ne trouvent pas en elles la force d'émigrer et de partir de ce genre de pays-là à cause de certains facteurs et de certains paramètres qu'il serait long d'aborder dans ce contexte-là, sachant que nous avons d'autres hadiths à aborder. Je vous incite donc à méditer sur ce sujet-là, à l'apprendre, en commençant par exemple, à titre d'exemple, par la lecture des propos du Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dans son commentaire du livre Thalathat al-Usul, les trois principes fondamentaux. On va s'arrêter là, incha'Allah ta'ala, pour ce hadith, et on continuera après la prière de l'Isha avec le second hadith, à savoir celui de Aïcha, radiyallahu anha, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin.